With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après les deux derniers épisodes sur l'angoisse, parce qu'aujourd'hui on va aborder une nouvelle thématique qui est celle du traumatisme. Donc là je vais faire qu'un seul épisode, hein, les deux derniers épisodes sur l'angoisse, c'est parce que c'est vrai que ça a abordé quand même plusieurs questions. Mais là, je vais essayer de continuer sur le format de un thème, un épisode. Je pense que c'est quand même plus simple. Vous me direz, en tout cas, si vous voulez que des fois j'approfondisse un peu plus certaines thématiques. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est le trauma, le traumatisme, et donc des questions qui peuvent graviter autour de ce champ-là. Donc, tout d'abord, c'est vrai qu'en fait, le traumatisme, il faut savoir que au départ, c'était un terme qu'on utilisait que pour les militaires, ceux qui revenaient de la guerre, les victimes ou les proches, donc qui avaient vécu un événement qui était objectivable, qui était perçu par le collectif comme traumatisme. Et c'est après qu'on a pu voir que il y avait certaines violences physiques, certaines violences sexuelles qui pouvaient aussi donner les mêmes symptômes que les traumatisés de guerre. Donc je trouve qu'en fait c'est intéressant de penser ce cheminement-là parce que ça en revient à se questionner sur le fait que est-ce que c'est un événement extérieur qui crée un traumatisme ou est-ce que c'est notre incapacité à y faire face qui crée le traumatisme et donc en rapport avec l'événement. En fait, ça pose la question, je trouve, de est-ce qu'on parle d'événements traumatiques ou de personnes traumatisées. Et c'est pas du tout la même chose. Vous allez voir que je vais le penser dans ce sens-là, de est-ce que c'est l'événement réel ou si c'est ce qu'on ressent à l'intérieur qui fait trauma. Parce qu'en fait, si on pense que c'est un événement, ça veut dire qu'on pourrait créer une liste de situations qui qualifieraient le traumatisme ou non. Donc voilà, la guerre, un viol, un attentat, une agression, enfin, il y aurait une liste comme ça de toutes les situations, tous les événements qui pourraient faire surgir trauma chez les personnes. Donc pour dire qu'on est traumatisé, il faudrait qu'on soit en référence à quelque chose de réel et d'objectivable. Quand on pense ces situations-là, ça retire tous les traumatismes qu'on peut vivre pendant l'enfance, par exemple, tous ceux qui seraient aussi passés dans le temps, parce que plus ça serait éloigné dans le temps, moins ça pourrait être objectivable ou mesurable. Et donc, on considérerait que le traumatisme ne peut pas être présent ou se manifester des années après ou être des choses qui sont différentes les unes des autres. Parce que c'est vrai que l'exemple le plus courant, c'est que deux personnes peuvent vivre un même événement et pourtant ne pas du tout avoir les mêmes retentissements psychologiques de cet événement. Donc par exemple, un attentat, qui est quand même la figure du traumatisme, va donner des répercussions différentes chez les personnes. Certaines personnes vont vraiment développer des symptômes post-traumatiques importants et ce pendant plusieurs années. D'autres vont pouvoir refaire surface après quelques semaines, vont avoir une forme de résilience peut-être plus rapide, et encore une fois, même au sein des symptômes, ça sera pas les mêmes, et d'autant que le traumatisme ne sera pas le même et ne sera pas fixé sur les mêmes objets de l'attentat. Même par exemple, dans un viol, qui est quand même une figure extrême aussi du traumatisme, certains vont être d'autant plus traumatisés par la violence de l'agression, alors que d'autres vont être d'autant plus traumatisés par les intentionnalités de l'agresseur. Si c'était quelqu'un qu'on connaît, ou le fait que cette personne ait pris plaisir à faire souffrir l'autre, ça va être d'autant plus traumatisant. Donc ça montre qu'encore une fois, un événement n'a jamais les mêmes répercussions identiques sur les personnes et que le poids de la subjectivité est toujours, selon moi, encore plus saillant que le poids de la réalité extérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que le trauma ? Je pense que pour penser le trauma, il faut d'abord le différencier de l'état de stress aigu. Parce qu'en fait, dans le stress aigu, c'est une réaction qui est plutôt normale, habituelle face à un événement où il y a eu un danger de mort, une ou des violences, des grosses blessures, une agression. Ça peut être pour soi ou pour un proche. Il y a vraiment l'idée d'un choc, d'une peur indicible, extrême sur le moment. Et donc ça, c'est vrai qu'on peut voir des personnes qui sont centrées sur ce qui s'est passé, ou tout autour de ça, les quelques jours après l'événement, et ça occupe en fait tout le système de pensée de la personne pendant quelques temps, et c'est proche en fait de la situation. Et je pense que c'est important de différencier ça, donc le stress aigu, avec le syndrome de traumatisme ou ce qu'on appelle le stress post-traumatique qui se rejoint, c'est-à-dire quand ça s'installe plutôt dans le temps et que ça va continuer à exister ou même à survenir, voire à resurvenir à distance de l'événement. En fait, parce que je trouve que cette distinction, elle est quand même assez importante parce que j'ai l'impression que dès qu'il y a un état de choc face à une situation, les personnes parlent vite de traumatisme, et ça banalise le terme aussi, qui pour moi entraîne des vraies conséquences au quotidien qui peuvent être très invalidantes quand on parle voilà, de stress post-traumatique. Et encore une fois, la question de si on a vécu une agression, c'est normal d'être dans un état de stress aigu, de choc émotionnel pendant un certain temps. Je pense que ne pas l'être, ça peut être aussi une forme de difficulté, et ça veut pas dire qu'on peut parler de traumatisme ou stress post-traumatique, qui donc lui, encore une fois, va vraiment avoir des conséquences à long terme et va donner des vraies répercussions psychologiques. Donc c'est important de voir quand un événement qui a été justement sous le primat du choc, de voir comment il évolue, si au bout de plusieurs mois, l'événement semble toujours se vivre de façon aussi à vif. Des fois, il y a des personnes, elles racontent la situation, c'est comme si ça s'était passé il y a 2 heures ou hier, alors que des fois, ça peut faire des années. Et donc, voir aussi si la personne souffre énormément de reviviscence, parce que je trouve que on parle pas assez, des fois, du basculement du traumatisme vers la dépression. Aussi, on a tendance, des fois, à parler de stress post-traumatique alors qu'en fait la personne est en dépression, donc ça peut être aussi en réaction face au stress post-traumatique, mais le risque en tout cas de ne pas penser et de ne pas parler de ce traumatisme peut faire que ça s'installe en dépression. Le traumatisme d'un point de vue psychique, d'un point de vue de l'organisation, de ce que ça fait vivre, il faut le voir vraiment comme une quantité d'excitation qui déborde. Alors, comme on a pu un peu le voir dans l'angoisse, c'est assez paradoxal peut-être de penser l'excitation dans ces temps-là, parce qu'en fait c'est pas l'excitation au sens commun du terme d'être excité comme une puce parce qu'on est très joyeux d'entreprendre une activité ou de retrouver quelqu'un. Là c'est vraiment d'un point de vue psychique, économique, d'en fait quelque chose qui est tellement envahissant que ça donne un afflux qui déborde. On est dans une impossibilité psychiquement à faire face à cet événement, et que celui-ci soit extérieur ou que celui-ci soit intérieur, donc uniquement pensé par nous. Il y a vraiment l'idée, il faut le voir comme quelque chose qui pétrifie, dû au fait qu'on ne peut pas en fait faire le lien dans cet excès qu'on est en train de vivre de l'intérieur. Ça empêche toutes nos capacités de construire, d'élaborer, d'intégrer une situation. Il y a une intensité qui est telle, au sens du débordement comme ça, de l'angoisse, voire du néant, qui peut être totalement débordant face à une situation traumatique, qui fait que la personne qui qui est en train de vivre cet événement ne peut pas y répondre de façon adéquate, elle ne peut pas construire une pensée face à ce qui est en train de se passer. Et en fait, donc, ce choc-là que la personne vit, il va vraiment devenir traumatique ou créer donc un état de stress post-traumatique quand justement ce qui s'est passé à ce moment-là, donc cette situation de non-sens, devient un non-événement. On ne peut toujours pas se représenter en fait cet effroi. Donc la chose, elle n'a pas du tout repris un statut de situation, d'événement. Il reste en fait cette sensation d'effroi, de sidération, sans que ce soit attaché presque à l'événement, comme si les deux étaient différenciés. C'est ça qui va faire que ça résonne énormément dans les souvenirs, dans les rêves. C'est la façon donc de réagir, la façon dont on s'est retrouvé dans cette situation, que l'événement en tant que tel, qui est à la limite presque un peu plus éloigné. C'est plus ce qu'on a ressenti. Et donc j'ai employé le mot d'effroi parce que je le trouve singulier et pour moi il a du sens quand j'entends parler certaines personnes d'un traumatisme. Et en fait on va voir que ce terme d'effroi il est pris par Freud. Parce que c'est de ça dont il parlait quand il évoquait le traumatisme en psychanalyse. C'est que donc ce trauma, c'était cet afflux d'excitation donc trop fort qui venait faire totalement déborder la personne. Et donc encore une fois, même si ça peut être particulier de penser à un trop-plein d'excitation, c'est très singulier en clinique, parce que ça fait tellement objet d'envahissement pour la personne que ça fait éruption en fait dans ce qu'elle est, dans toute son identité, et ça c'est même très menaçant pour l'intégrité physique, psychique de la personne. Donc c'est vrai que j'emploie des mots forts, mais c'est parce que je pense que j'ai envie de partager mon point de vue du traumatisme qui est différent de quelque chose voilà qui bouscule, d'un choc, c'est quelque chose qui désorganise, vraiment. Et d'ailleurs dans le traumatisme, on est toujours dans l'excès parce que la scène en tant que telle, donc encore une fois, quand on se situe dans une situation d'un événement extérieur, fait qu'il y a un excès souvent de sons, d'images, d'angoisses, et c'est cet excès-là qui reste aussi dans l'après-coup. Et donc qui ne prend aucun sens et qui peut venir inscrire un traumatisme. La personne, elle n'est pas dans la capacité d'évacuer ce surplus, ni de l'élaborer. C'est vraiment, il faut le voir comme notre mental qui est bombardé. C'est une bombe à l'intérieur. Selon moi, et plusieurs personnes partagent ce point de vue, ce qui fait traumatisme, c'est souvent la passivité qu'on a pu vivre pendant l'événement, pendant la scène traumatique. C'est-à-dire cet effet de sidération tellement on est débordé, fait qu'on se sent très passif dans la situation. Et ça crée ce traumatisme aussi. Il y a vraiment l'image de on est couché par terre, psychiquement. Et d'ailleurs, on dit souvent que les personnes, sur le moment, ne se souviennent de pas grand-chose, que ça semble assez impensable, ou alors irreprésentable, comme un moment donc dénué de sens. Et je pense que c'est pour ça que Freud y parle d'effroi, c'est qu'il n'y a pas de mots, il y a de la sidération et c'est très brutal. Et d'ailleurs moi je trouve que c'est ce qui fait que souvent après l'événement, les personnes peuvent être aussi dans cet état de vide, de sidération. C'est possible que c'est le fait d'avoir eu aussi cet afflux d'excitation si envahissant à un moment donné, qu'après il n'y a plus rien. Après c'est un état sidérant, on est assez coupé. Enfin, c'est une hypothèse, hein, mais que vous pouvez partager ou pas, mais je trouve que ça, on peut le rencontrer dans ces cliniques-là. Donc en tout cas, Freud, il pense que vu que la personne, elle n'a pas pu comprendre, faire du lien dans ce qui se passait, donc voilà, une situation traumatique là qui se passe devant nous, une bombe qui explose, donc là je vais vraiment dans des images extrêmes, mais c'est pour bien que vous compreniez, mais en fait, dans ces moments-là, il n'y a eu aucun moment où on a pu lier l'événement. C'est du brut. On ne peut absolument pas le penser. Et en fait, vu qu'il n'y a pas eu cette possibilité de lier, de penser, de relier la situation, la personne, elle va répéter la scène dans ses rêves ou dans son imagination, parfois même de façon assez compulsive. C'est assez particulier dans le traumatisme parce que c'est comme, enfin, moi j'ai l'impression que c'est comme un toc du trauma. Enfin, c'est des personnes qui vont répéter la scène comme une pensée compulsive de la situation. Et en fait, c'est comme s'il y avait un corps étranger dans notre propre corps. Comme si quelqu'un était entré par effraction dans notre organisme. Mais en fait, on ne peut pas le lier, on ne peut pas l'accrocher à quelque chose. Il est juste là. Il n'arrive pas à se rendre utile. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça, cette situation assez passive, qui va faire office de traumatisme. D'ailleurs, un jour, je pense que je vais faire un épisode sur la culpabilité, parce que je trouve que c'est un concept qui est vraiment très en lien avec la question du traumatisme. Elle est vraiment intéressante à penser liée. Je pourrais pas là le mettre direct à la suite, mais souvenez-vous-en, en tout cas, de ce concept-là, parce que rapidement, en fait, c'est le fait que le traumatisme, c'est tellement angoissant qu'on ne peut pas trouver de raison. Encore une fois, ça a vraiment zéro sens pour la personne. Que la seule solution que cette personne va pouvoir trouver pour s'en sortir aussi dans l'après-coup, c'est des fois de passer par ce sentiment de culpabilité. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, parce que quand je ferai l'épisode sur la culpabilité, je parlerai beaucoup d'Albert Sicone, qui a beaucoup écrit dessus et qui c'est absolument passionnant, et qui explique en fait que se sentir coupable, c'est aussi sortir de la passivité, parce que quand on a été dans un événement comme ça, on n'a rien pu en faire, penser qu'à un moment on aurait pu peut-être faire les choses différemment, même si ça a des effets négatifs, c'est un premier pas des fois pour retrouver une forme d'activité. Et la culpabilité, c'est aussi être du côté de l'humain. Donc ça donne aussi une explication. L'explication, ça peut être c'est moi, je suis allée aux toilettes avant de partir, donc j'ai retardé le départ, on n'aurait pas vécu peut-être tel accident si j'avais fait ci ou ça. Donc encore une fois, à petite dose, des fois c'est important d'entendre cette culpabilité-là et de pas être directement dans mes noms, tu peux rien, enfin ça a du sens pour les gens. Ça veut pas dire qu'il faut y rester accroché dedans, mais ça fait partie aussi du passage. Enfin bref, je clôture la parenthèse, mais intéressant vraiment de penser la culpabilité avec le traumatisme. Donc, ce qui est intéressant à penser aussi avec le traumatisme, c'est le concept de clivage, qui est un concept psychanalytique qui mériterait aussi un épisode entier consacré, parce que c'est vraiment très intéressant comme mécanisme. Mais en tout cas, Ferenczi, il en a parlé pour le mettre en lien avec le trauma. Donc parfois, pendant le traumatisme, on a vu qu'il y avait cet arrêt de la capacité de penser. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est cet autoclivage que Ferenczi va aborder, c'est qu'en fait la personne, pour survivre à ce traumatisme, va inconsciemment se couper en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est présente, qui vit le traumatisme, et il y a une autre partie qui ignore totalement la scène et qui s'en écarte pour survivre. Et en fait, la partie qui s'est éloignée comme ça de la scène, elle peut revenir dans la vie, et la personne peut souffrir justement de cette partie qui a été clivée, donc mise de côté. Et là, ça sera important de faire un travail aussi autour de ça. Alors ce clivage, il faut vraiment le voir dans une démarche de survie à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un mécanisme de défense, on a besoin de ce clivage dans le traumatisme. Par exemple, s'il y a un accident de la route, on est obligé de se cliver pour appeler les secours. C'est opérationnel. On est obligé en fait de ne pas se représenter la scène en tant que telle de façon brute. Si par exemple quelqu'un est en détresse vitale, si on reste que là-dessus, on n'est pas en capacité d'appeler les secours. Donc on est obligé de couper et réagir de façon concrète aussi pour pouvoir prévenir les pompiers, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même, je trouve que c'est assez singulier dans l'après-coup du traumatisme qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent pas tout de suite tout ce qui s'est passé. Comme s'il restait cette partie opérationnelle clivée de la scène, ou même des fois pendant plusieurs jours, voire semaines, les personnes vont continuer à se lever, à manger, à s'habiller, de façon tout à fait opérationnelle. Et c'est comme s'il y avait une partie d'elle-même à ce moment-là qui avait disparu. Et la partie de l'affect qui désorganise, elle n'est pas revenue encore. C'est pour ça qu'il y a vraiment la notion d'après-coup qui est très importante dans le traumatisme. On va parler aussi du trauma psychique qui est aussi important parce qu'en fait, là on a beaucoup vu par rapport à des scènes, donc je pense que vous avez compris l'effet d'une situation qui peut déborder d'un point de vue du réel. Mais en fait, Freud, il va vite se rendre compte aussi qu'il y a des traumas qui sont psychiques, c'est-à-dire que voilà, il fait cette transition entre le trauma réel et le trauma psychique. C'est-à-dire qu'il ne va pas garder le fait que c'est forcément un événement extérieur qui crée un traumatisme, mais ça peut être aussi un souvenir, un fantasme, un rêve, une imagination, une reviviscence qui peut être traumatique. Et en fait, c'est vraiment très intéressant parce qu'il déconstruit totalement l'idée qu'il y a une forme de hiérarchie entre la réalité extérieure et la réalité interne, pardon. Et en fait, il fait que notre vie psychique, elle a un statut de réalité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent souffrir d'un drame, qu'elles peuvent avoir l'impression d'avoir vécu, sans que ce soit inscrit dans leur vécu en tant que tel, réel. Et pour autant, c'est vrai dans leur réalité, parce qu'elles en souffrent autant, et il faut pouvoir les écouter. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent avoir extrêmement peur de l'eau, comme s'ils avaient vécu une noyade, et donc ils peuvent avoir du mal à respirer, quand très phobiques d'entrer dans l'eau, et pourtant il n'y a jamais eu un événement qui désigne qu'ils se sont noyés. Quand on parle aussi de traumatisme psychique, c'est aussi l'idée que le trauma d'une scène, enfin une scène qui peut provoquer un choc, peut venir réactiver d'autres traumas. Donc Freud, il appelait ça névrose traumatique, et Laplanche disait quelque chose de vraiment intéressant, il me semble qu'il disait qu'il fallait deux traumatismes pour en faire un seul, donc deux traumatismes pour faire un traumatisme. Donc c'est-à-dire que parfois on a pu vivre des événements qui n'ont pas pris forcément une place de traumatisme justement dans notre organisation psychique, quelque chose qui n'a pas eu une place singulière dans notre mémoire. En fait, le fait de vivre une deuxième scène peut raviver la première, même si les deux ne sont pas identiques. C'est que la deuxième scène va faire qu'on peut se souvenir d'une première scène, et c'est souvent ça, le traumatisme, qui fait encore plus cet effet trauma. C'est le souvenir de la première scène. Je ne sais pas si je suis claire dans ces propos-là. Mais ça montre qu'en fait, c'est important de pouvoir des fois réinterroger ce qui s'est passé avant. Aussi, quand on voit qu'il y a des traumatismes qui s'inscrivent trop dans le temps. Je sais pas si je vais arriver à donner un exemple, mais quelque chose bon, peut-être d'assez vulgarisé justement, mais on fait du vélo, donc on part en balade, et peut-être qu'on a été frôlé par une voiture, ce qui a fait qu'on est peut-être tombé, qu'on a eu très peur pour notre vie, qu'on a été sous le choc, enfin. Qu'on a eu peur pour soi, hein, que ce soit réel, qu'on n'ait même plus nécessité des soins, enfin, etc. Et ben en fait, des fois dans l'après-coup, on peut vivre ça comme un traumatisme, parce que sans s'en rendre compte, ça a réactivé peut-être une autre scène aussi, cette chute dangereuse et ce risque pour soi, ça en a réactivé un autre qui des fois est d'autant plus traumatique. Donc, par exemple, le fait que, je sais pas, enfant, on est parti à vélo sans rien dire à qui que ce soit. On était petit, on a du coup transgressé l'interdit parental. Et à un moment, peut-être, on s'est perdu, on pensait qu'on n'allait pas retrouver chez soi. Ou alors, encore une fois, on a pu avoir eu peur de se faire écraser, même si c'était pas la réalité. Et donc on est vite rentré, on n'en a parlé à personne, et on a laissé ça de côté. Ben peut-être qu'en fait, ça, ce traumatisme donc là actuel d'avoir frôlé un risque pour soi, vient réactiver ce que enfin à un moment on a vécu comme risque, et vient en plus réactiver le fait que on a transgressé et que ça a failli nous coûter parce qu'on a eu très peur. Et donc toute la représentation avec les parents et etc. Donc vraiment cette notion d'après-coup importante dans le traumatisme psychique, qui est que le premier événement devient traumatique quand le deuxième événement le réactive. Alors avant de parler un petit peu de comment aussi on peut peut-être sortir du trauma, je voulais faire une petite parenthèse aussi qui est intéressante sur les traumas qu'on dit constructeurs. Parce qu'en fait c'est vrai que là j'ai donné une image très sombre et qui c'est le cas hein, en soi des traumatismes. Mais en fait il y a certains traumas donc d'un point de vue psychique qui sont plus constructeurs, organisateurs. C'est certains, voilà, il me semble parlent de traumatismes organisateurs. Par exemple, les séparations pendant l'enfance, ça fait partie aussi des petits traumatismes qui font que on en est là aujourd'hui et que ça s'est organisé dans notre pensée. C'est que voilà, un bébé quand il est tout le temps collé à son parent, par exemple à sa mère, et qu'en permanence il est voilà avec elle, bah forcément quand elle reprend aussi d'autres activités, et ben il peut avoir ce sentiment de détresse, de perte, d'avoir peur que l'autre disparaisse, et ça fait partie en même temps des traumatismes qui construisent, qui sont importants à vivre. Ça fait partie du processus de se séparer de la toute-puissance infantile, de se confronter à l'altérité, à la différence des sexes, etc. Enfin, il y a plein de traumatismes comme ça qu'on peut retrouver pendant l'enfance et qui permet qu'on s'organise aussi psychiquement. Donc là, je parle pas, encore une fois, des traumatismes violents de « on arrache un enfant à sa mère » ou quoi que ce soit. Je parle de la vie courante qui organise aussi la pensée. Des moments, en tout cas, que l'enfant doit vivre, qui peuvent faire un temps trauma et qui construisent après, organisent notre pensée, notre rapport aux autres, au monde, voilà, on n'est pas en fusion, ni tout puissant, etc. Et pour ça, d'ailleurs, c'est très important que l'environnement accompagne cela, hein, que ce soit voilà, les proches, les parents, etc. Donc c'est pour dire qu'en tout cas, juste les traumatismes ne sont pas systématiquement destructeurs, mais il y en a qui sont organisateurs. Ils peuvent aussi être du côté de la vie et de la réorganisation du système. Alors pour finir, je voulais un petit peu parler de l'après-traumatisme, de justement un petit peu qu'est-ce qui peut se passer pour sortir de cette situation-là, de ce vécu-là. Donc c'est vrai que je vais pas parler spécifiquement de technique parce que c'est pas forcément ce que je connais. Même si je sais que la plus connue, donc, c'est le MDR. Donc, je crois que c'est Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, il me semble. Je suis pas sûre, mais en tout cas, voilà, EMDR. Et qui donne des bons résultats, hein, de ce que j'entends des retours. Hein. C'est une technique qui désensibilise et retraite par des mouvements oculaires. Donc il y a beaucoup de psychologues qui la pratiquent, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et bien entendu, moi à côté, je vais plutôt insister aussi sur le besoin et la recommandation des fois d'aller en parler à quelqu'un, de commencer un travail thérapeutique par la parole, s'il y a besoin. Parce que pour moi, ce qui est vraiment important dans l'après-coup du traumatisme, quand voilà ça continue à s'inscrire, c'est la possibilité d'être de nouveau actif par rapport à la scène, et donc par rapport à la passivité qu'on a vécue dans cette scène. Être actif, ça peut aussi passer par le fait de résoudre les problèmes que ça a pu réactiver, donc par la parole, peut-être réinterroger des traumas antérieurs, se reconstruire peut-être la scène aussi, des fois d'avoir envie de la reparler, mais peut-être avec un discours différent, et aussi l'importance de se réparer dans cette scène. Donc déjà de réparer d'un point de vue peut-être de la culpabilité qui peut en surgir et de tout ce qui s'est passé après, mais aussi se réparer dans des faits concrets. Je pense par exemple à un viol, le fait de porter plainte après, c'est donc il y a la question d'attaquer celui qui a agi, qui est passé à l'acte, mais aussi se réparer soi, c'est très thérapeutique aussi de porter plainte, parce que c'est justement, alors que certains ont l'impression que ça vient faire vivre le statut de victime, mais non, en fait on est victime quand on reste passif, et je pense que porter plainte, c'est reprendre une activité face à ça. Donc c'est pouvoir aussi confronter ce qui s'est passé, et ne sortir de cet état de victime si celui-ci en tout cas est problématique pour la personne à ce moment-là. Bon, je vais pas de toute façon m'épiloguer sur la question du traumatisme dans le viol, mais c'est vrai que je trouve que ça a du sens en tout cas. Même les personnes qui rejoignent des associations, qui écrivent des livres, enfin voilà, il y a beaucoup de biographies, d'autobiographies, pardon, de personnes qui ont vécu des expériences très traumatiques, et en fait, je pense que c'est très thérapeutique de reprendre vie et d'agir dans ce sens-là. En tout cas, quand le traumatisme peut être passé, ça veut dire aussi que la personne peut retrouver une certaine cohérence mentale, c'est-à-dire qu'elle a pu remettre du lien entre ce qui s'est passé et aujourd'hui. Ça ne veut pas dire ne plus être anxieux à l'idée de certaines scènes, mais en tout cas, y voir une continuité et être plus apaisé. Et quand ça fonctionne pas, c'est justement quand l'émotion, l'affect, la sensation du traumatisme nous réveille, continue à nous habiter et nous rappelle ce qu'on a vécu. Donc ce sentiment-là, au-delà de l'événement. Le sens en tant que tel, qui en fait prend plus place de traumatisme et qui en perd en fait le statut d'événement. François Marty d'ailleurs, il a beaucoup écrit sur ces thématiques-là du traumatisme, et vraiment je vous invite à lire si ça vous intéresse. Mais en tout cas voilà, on peut se souvenir de l'angoisse en premier lieu, on la vit de nouveau, mais en fait la scène angoissante, elle est beaucoup plus éloignée, l'événement, le déroulé, etc. En tout cas, c'est des questions qui, je pense, sont très actuelles aussi dans la prise en charge du traumatisme, et chacun peut en tout cas en vivre dans sa vie, malheureusement. Et il faut toujours garder en tête que il faut du temps aussi pour penser les choses, et c'est vrai que je suis toujours assez critique de la société actuelle, au sens de on doit être vite un patient résilient, un thérapeute performant, donc vite passer à autre chose, s'en sortir coûte que coûte, guérir vite fait bien fait. Et pour le trauma, je trouve que c'est vraiment très significatif. Enfin, les gens en viennent à culpabiliser de ne pas passer à autre chose, mais parce qu'en fait, ils ont en permanence des images et des paroles comme « bah, ça s'est passé il y a 3 ans, t'y penses encore ?»« Ah bon, mais tu radotes ?»« Non, mais il faut passer à autre chose. » Alors qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est très culpabilisant de faire vivre ça aux autres. Parce que il ne s'agit pas juste de passer à autre chose, justement. Et ça entraîne vraiment des difficultés, parce que ça met un état de statut d'anormal, alors que la personne a vécu quelque chose d'anormal. Donc encore une fois, moi j'ai toujours cette idée que quand on vit quelque chose d'anormal, c'est normal d'y répondre de façon anormale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre son temps, pouvoir y réfléchir, se faire aider s'il y a besoin. Et quel que soit le traumatisme, qu'il soit installé dans la réalité extérieure, intérieure, qu'il soit partagé, isolé, compris, pas compris, dans l'enfance ou qu'il en réactive d'autres, c'est forcément quelque chose qui bouscule et qui effracte. Et donc il faut ramener de la pensée à ce qui a pu sidérer. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode a pu vous intéresser, qu'il n'a pas été trop plombant, parce que c'est une thématique qui est lourde, et j'avoue que les prochaines vont l'être un peu, mais j'avais envie d'aborder des sujets que tout le monde aussi peut traverser malheureusement, tout en donnant cette image que on peut en faire quelque chose. Encore une fois, on peut transformer les situations. Et je finirai d'ailleurs la saison aussi par une note positive. Enfin, c'est pas tout de suite la fin de la saison, mais En tout cas, pour le dernier épisode, j'ai une idée de quelque chose qui nous fera un petit peu sortir de ces images-là. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours, vos avis. N'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast. Et puis, je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt. Salut !